Il est vrai que le toponyme de Savigny, qui est distribué un peu partout en France, désigne, on vous l'a dit hier soir, hein, dans le département de la Manche, trois sites, dont deux situés au sud, à la limite de la Normandie, de l'Ille-et-Vilaine et de la Mayenne, l'abbaye de Savigny et le village voisin de Savigny-le-Vieux, dont l'adjectif ajouté permet de mieux le dissocier de son illustre voisine. En effet, l'abbaye de Savigny fut quand même la plus vaste et la plus prestigieuse du diocèse d'Avranches après le Mont-Saint-Michel, ce que la découverte du site ne laisse pas forcément deviner aujourd'hui. Le fondateur, donc Vital, né vers 1050 à Thiersville en Bessin, montre, semble-t-il, de remarquables capacités intellectuelles, des qualités d'orateur et de rhétoricien. D'abord chapelain du comte de Mortain, puis chanoine de la collégiale Saint-Évroult, dans la même ville, il choisit ensuite la voie érémitique pour finir fondateur d'une abbaye dotée d'appuis nombreux et prestigieux. Ainsi, Vital croise le chemin de la famille de Conteville, les demi-frères de Guillaume le Conquérant, les seigneurs de Fougères, le roi d'Angleterre Henri Ier et de bien d'autres. L'abbaye de Savigny s'installe au carrefour de trois régions, avec un pied dans deux pays, ce dont le développement de la congrégation bénéficiera. En effet, l'abbaye de Savigny essaime rapidement tant en France qu'en Angleterre. Une progression fulgurante qui nécessite une logistique que la maison mère n'est plus à même de fournir, une des raisons pour laquelle l'ordre savinien se donne tout entier à Cîteaux en 1147. Elle prend place au cinquième rang de l'ordre après La Ferté, Pontigny, Clairvaux et Morimont. À Vital revient le mérite d'avoir fondé Savigny, à Geoffroy, son successeur, celui d'avoir créé l'ordre de Savigny, à Serlon, quatrième abbé, celui d'avoir réalisé la Réunion à Cîteaux. 50 ans suffirent pour détruire l'abbaye à compter de décembre 1790, moment du pillage par les habitants des environs, et de mars 1791, vente officielle du mobilier et des terres. L'abbaye elle-même, vendue le 9 juillet 1793 à Joseph Norbert Porphyre Jacquemont, cultivateur résident à Saint-Hilaire-du-Harcouët, subit un dépeçage méthodique. Seul un élément échappe au vandalisme, la porte romane du réfectoire, achetée en 1845 par Arcisse de Caumont, de passage à Savigny. À partir de cette trame, plus ou moins acceptée par tous, même si des points de divergence apparaissent, on le verra, les publications sur Savigny ne manquent pas. Recourant aux sources ou non, recopiant les mêmes erreurs ou non, posant des questions essentielles ou non. Visitons donc ensemble les pages noircies par tant d'auteurs à partir de la somme de dons Auvry. Le premier regard historique à se porter sur la congrégation de Savigny est celui de Don Auvry, prieur de la communauté de 1698 à 1712, dont l'histoire de la congrégation de Savigny paraît en 1896, introduite et annotée par Auguste Laveille. Auguste Pierre Laveille, né en 1856 au Val-Saint-Père, donc dans la Manche, ordonné prêtre à Saint-Hilaire-du-Harcouët, professeur de théologie morale, d'histoire ecclésiastique et de dogme dans différents établissements religieux, se consacre à Savigny sur la fin de sa vie lorsqu'il ne peut plus prêcher. Il écrira une quinzaine de biographies, certaines traduites en plusieurs langues, d'autres couronnées par l'Académie française, un rapide tableau dont il se dégage que l'auteur n'a rien d'un obscur plumitif. Toutefois, et pourquoi en serait-il autrement, ses propos sont fortement imprégnés par les valeurs de son temps, les discours moralisateurs et propagandistes de son époque. Dans son introduction, le curé Laveille narre l'enquête menée pour débusquer l'auteur de l'histoire de la congrégation de Savigny, qui néglige de faire imprimer son œuvre et qui dédaigne d'y mettre clairement son nom. Curieusement, il ne livre pas d'informations sur la façon dont il est rentré en possession du texte. C'est par l'effet d'un hasard inespéré, nous dit-il. Mais il explique de façon plausible que par recoupement, il en a conclu que sous les initiales PDCAPDS se cachait la mention par Don Claude Auvry, prieur de Savigny. Il est avéré que Claude Auvry passera les dernières années de sa vie au Vau de Cernay, là où il mettra la dernière main aux notes amassées durant son priorat à la tête de Savigny. Pour rédiger cette histoire, Don Auvry s'appuie sur plusieurs ouvrages et sources. Bien évidemment, la Vita de Vital, écrite par Étienne de Fougères, le rouleau mortuaire de Vital, la chronique de Savigny publiée par Étienne Baluze dans ses Miscellanea, le livre des miracles des saints de Savigny, sans oublier les nombreuses pièces d'archives dont il peut encore disposer et les travaux contemporains de son époque. La veille se pose déjà la question de la solvabilité de l'œuvre au regard de l'histoire. Il constate que malgré des faiblesses, une tendance à souligner plus que de raison les vertus des héros de Savigny, Auvry tente de retracer au mieux l'histoire de cette abbaye devenue sienne. L'ouvrage, en 3 tomes, est tout entier consacré à Vital, à la fondation de Savigny et à celle de l'abbaye blanche. Don Auvry et ses naturels se montrent fiers de l'origine indépendante du monastère et de la congrégation ainsi que des saints qui lui sont liés. À l'origine, le texte devait se limiter à une période d'environ 130 ans, de la fondation à la fin de l'administration d'Étienne de Lexington, soit en 1244. Réflexion faite, Auvry prolonge le récit d'un siècle supplémentaire par rapport au terme initialement prévu, les détails se faisant toutefois de moins en moins nombreux. De cette somme en 3 volumes, la veille résume assez bien ce qu'il faut retenir de l'ouvrage. Si l'histoire de la congrégation de Savigny ne répond pas entièrement à l'idée que nous nous faisons d'une œuvre scientifique, elle présente l'ensemble le plus complet de renseignements que l'on connaisse, actuellement du moins, sur la fondation de Savigny et les premiers temps des monastères savigniens. L'on peut ajouter que si la tendance hagiographique de nombreuses sources ne lui pose pas de problème, il se hisse parfois au niveau de la critique historique lorsque, solidement instruit des sources, il se prend à corriger les erreurs commises par ses prédécesseurs. Ceux postérieurs ne pourront que se référer à ce premier ouvrage sur l'histoire de Savigny, dont l'original est précieusement conservé aux archives municipales de Fougères. Auguste Laveille, s'estimant sans doute légitimé, poursuit l'histoire. La liste des abbés qu'il fournit, auxquels sont associés les faits les plus remarquables les concernant, s'achève avec François-René Dédy, dernier abbé à la veille de la Révolution. Il s'attelle ensuite à la nomenclature des fermes et rentes de l'abbaye, en s'adossant au texte d'Hippolyte Sauvage, dont il semble penser le plus grand bien. Enfin, il brosse l'état spirituel et temporel de l'abbaye, après la mort de Massillon, abbé commendataire de 1721 à 1742. Pour cela, il affirme avoir consulté un manuscrit original retraçant l'histoire de cette maison de la main de Don Pierre-Marie Bonnet, docteur de Sorbonne et prieur de Savigny de 1766 à 1772. Ce texte se trouvait à la bibliothèque d'Avranches, nous n'en avons plus trace. Au XVIIIe siècle, 2 esquisses sur Vital et ses fondations monastiques existent encore. L'une naît sous la plume de Jean Mabillon en 1713, l'autre paraît dans la 2e édition de la Gallia Christiana en 1759. Le XIXe siècle sera beaucoup plus généreux en parution, bien des raisons l'expliquent, elles sont habituelles, la prise de conscience provoquée par les destructions révolutionnaires, l'essor des sociétés savantes, les missions gouvernementales et, en ce qui concerne Savigny, l'accès à une mine d'informations, en l'occurrence, les chartes. De façon inespérée, même si on ne l'a pas considérée comme telle à l'origine, la partie la plus ancienne du fonds de Savigny a fini ses jours aux archives nationales. Malgré quelques mutilations, il comprend encore plus de 1300 chartes originales datées de 1112 au XIVe siècle, auxquelles il faut ajouter une centaine d'originaux et de copies prises sur des originaux qui n'existent plus. On ne possède plus ni l'original de la charte de fondation de la forêt de Savigny, par le comte de Fougères, ni celle de la fondation de l'abbaye blanche. Pour la première, il faut se référer à des copies, dont un vieux rouleau, étudié par Molenbrock, qu'il pense écrit peu après 1138. Pour la seconde, il existe des copies certifiées de l'original, ce que l'on appelle des vidimus. Le vieux rouleau contient 24 actes concernant la fondation de l'abbaye et, bizarrement, dont Auvry ne le mentionne pas. Paul Le Cacheux, conservateur des archives départementales de Saint-Lô entre 1911 et 1925, livre un article de premier plan pour la connaissance du périple, il n'y a pas d'autre mot, du fond de l'abbaye de Savigny. À la veille de la Révolution, les archives sont conservées à l'étage d'un bâtiment bordant le cloître au-dessus de la boulangerie. Les lois du 2 et du 5 novembre 1790 décrètent pour la première que les biens de l'Église deviennent biens nationaux, pour la seconde, qu'il convient de s'emparer des archives. Au mois de mai, les officiers municipaux ont déjà dressé un inventaire du mobilier et envoyé au district les clés du chartrier. En 1819, sous le patronage de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, est entrepris un vaste essai de recensement des richesses historiques de la France. Sous couvert du ministre de l'Intérieur et des préfets, la tâche est confiée à Charles Duhérissier de Gerville, érudit et archéologue manchois. Lors de sa tournée dans l'arrondissement de Mortain, il détecte immédiatement au sein des manuscrits, dont personne ne s'était soucié jusque-là, deux volumes in folio en vélin, le cartulaire de Savigny et un autre registre similaire, postérieur, sans doute du XVIe siècle, contenant l'indication des dépendances de l'abbaye. Gerville recopie entièrement le cartulaire en attendant de le restituer aux archives départementales, dans l'attente, dit-il, d'un archiviste digne de ce nom, ce qu'il fit. Paul de Farcy, archiviste paléographe de la fin du XIXe siècle, fera également une copie du cartulaire, avant sa disparition, exemplaire en possession de la Bibliothèque nationale. 10 ans plus tard, Amédée Léchaudet d'Anisy, désigné comme archiviste paléographe, doit cette fois inventorier et classer le fonds de Savigny pour le compte de la Commission of Records qui collecte les documents intéressant l'histoire anglaise. Sa mission est à peine achevée qu'un autre émissaire intervient, Nathalys de Vailly, dépêché pour mettre un terme, est-il précisé, au pillage. C'est lui qui décide le transfert des chartes à Paris qui seront incorporées dans la section historique des archives du royaume. Le Cacheux estime que 1700 pièces partiront ainsi vers Paris, laissant libre cours à son amertume devant ce rapt contraire à la loi du 5 Brumaire en 5, dont l'article 1 ordonnait que tous les titres et papiers acquis à la République soient réunis au chef-lieu du département. Il récupérera ce dont l'administration parisienne n'aura pas voulu ou n'aura pas su identifier. Le cartulaire du XIIIe siècle, inédit, ainsi qu'un important fonds d'archives composé de 2205 liasses. L'ensemble disparaîtra dans les flammes des bombardements de 1944. L'abbé des Roches, en 1854, curé d'Isigny et membre de la Société des antiquaires de Normandie, avait fait paraître un article dont le titre, Analyse des titres et chartes inédites de l'abbaye de Savigny, sonnait comme une analyse exhaustive des sources. Une erreur. L'introduction grandiloquente présente les moines comme de preux chevaliers qui, las de courir le monde, viennent finir leur vie dans le cloître, où ils arrivent à grand bruit avec armes et bagages. Le corps du texte, divisé en 4 grandes parties, présente les donations des seigneurs de Fougères, les donations des évêques d'Avranches, un extrait du cartulaire relatif au Maine, donnant des informations sur les limites de cette province du côté de la Normandie, pour se terminer par des renseignements sur quelques-uns des abbés du monastère, parmi les plus célèbres. Peu de réflexions personnelles émanent du texte qui pourtant, par exemple, relate la lettre de Guillaume, abbé de Clairvaux, destinée à Achard, évêque d'Avranches, pour lui parler des revenus réguliers et dîmes perçus par Savigny. Nous y reviendrons. Jacqueline Rambaud-Buaud, conservateur au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, dont la thèse de chartiste portait déjà sur Savigny, aborde franchement la question de la date réelle de la fondation de l'abbaye. Compte tenu de l'absence des actes originaux, compte tenu d'un cartulaire lui-même perdu, elle situe la fondation de l'abbaye entre 1112 et 1115, moment où prendrait également place la fondation de l'abbaye blanche de Mortain. En revanche, du scribe qui fin 12e compose le cartulaire, elle affirme qu'il a donné la transcription d'un vieux rouleau qui ne peut être que le rotulus de la fondation. En tête se situe une copie de la donation de la forêt de Savigny par Raoul de Fougères à Vital en vue de la fondation de l'abbaye le 25 janvier 1112. Elle met en doute la date du 25 janvier, mais confirme le siècle grâce aux actes d'Henri Ier, roi d'Angleterre, et de Turgis, évêque d'Avranches, qui tous deux le mentionnent. Elle en déduit que si l'acte de donation est bien de 1112, Vital, alors ermite, ne peut avoir créé l'abbaye la même année. Par ailleurs, elle souligne la contradiction entre cet acte et celui de la fondation de l'abbaye blanche de Mortain, celle du Neubourg qu'aurait dirigé la sœur de Vital, Adeline. S'il était vraiment de 1105, cela signifierait que Vital était déjà abbé. Cette pierre d'achoppement sur laquelle buteront plusieurs auteurs suscite diverses interprétations. Jacqueline Buot, penchant pour une erreur de copie, le scribe distrait aurait écrit 1105 au lieu de 1115, nous dit-elle. Cela lui permet de confirmer la sortie de terre des deux établissements monastiques entre 1112 et 1115. Il convient, et nous l'entendrons, de lire l'article de Claude Groux-Cordray paru en 2012 pour toucher du doigt la complexité du dossier relatif à la fondation de Savigny. Elle sait en confronter les sources et en souligner les contradictions. Du côté manchois, il est vraiment regrettable que la thèse de Béatrice Poule, donc en date de 1989, relative aux chartriers de l'abbaye de Savigny, n'ait pu être publiée. Elle y livre pourtant une transcription partielle, mais essentielle, des chartes indispensables aux chercheurs. Depuis 1839, les Archives nationales de Paris préservent le rouleau mortuaire de Vital, constitué de 15 feuilles de parchemin écrites recto verso. Le texte en sera exploité tout à la fois par Étienne de Fougères et par Don Claude Auvry. Lorsque Vital meurt, un homme à cheval, le rotulifère, part recueillir auprès des abbayes filles de Savigny, mais pas seulement, des prières et des hommages pour celui qui vient de décéder. 207 titulis d'églises et de monastères y sont recensés. On doit l'édition standard à Léopold de Lille qui, en 1909, fait paraître un fac-similé. Précédemment, dans son fameux mémoire des monuments paléographiques concernant l'usage de prier pour les morts, il dissertait sur les points lui semblant suspects, comme l'année de la fondation de Savigny ou encore l'année de la mort de Vital. Il corrigeait quelques erreurs du passé et, comme Auvry, rejetait la charte de fondation. Malheureusement, son manuscrit raturé restera inachevé. Ce document répond aux lois du genre et prend place parmi les documents paléographiques majeurs. Dans la somme consacrée au rouleau mortuaire, publié en 4 volumes, Jean Dufour, que nous aurons aussi le plaisir d'entendre, archiviste paléographe, analyse le texte et le donne dans son intégralité. Après avoir rappelé la disparition de l'encyclique dès la fin du XVIIe siècle, dont on peut retrouver la teneur dans les écrits d'Étienne de Fougères et de Don Auvry, il cherche à établir le cheminement du rouleau et remarque que l'itinéraire adopté par le rotulifère ressemble à celui du rouleau de Mathilde. Il souligne également l'intérêt de ce rouleau dont le grand nombre de textes de mains différentes permet d'apprécier la progression de l'écriture gothique dans le premier quart du XIIe siècle. Le recours à cette étude est évidemment du plus grand intérêt. Passons au fondateur, donc Vital, et ce qui a pu être écrit sur les saints de Savigny. Sous la rubrique consacrée au bienheureux Vital de Mortain, parue en 1876, dans une étude parue en 1876, l'Histoire générale de l'Église, l'abbé d'Arras s'appuie sur les titulis du rouleau mortuaire pour faire du fondateur un apôtre, un docteur et un thaumaturge. D'autres, après lui, remarqueront que certains titulis sortent des stéréotypes pour présenter Vital comme une figure déjà vénérée de son vivant. Cela n'autorise pas pour autant à malmener les données historiques afin d'édifier un piédestal à la sainteté et au rôle que Vital a pu jouer à un échelon autre que l'abbaye de Savigny elle-même. L'auteur ajoute sans vergogne que les propos d'Étienne de Fougères sont dignes de foi puisqu'il pousse la modestie jusqu'à bannir du texte le fait qu'il est lui-même le petit-fils du donateur Raoul, seigneur de Fougères. La Vita de Vital, écrite par Étienne de Fougères, petit-fils du comte Raoul Ier de Fougères et mis sous le boisseau de longues années, sera publié par l'abbé Sauvage dans les Analecta Bollandiana en 1882. Il la découvre quelque temps avant à la Bibliothèque nationale dans le même lot que le manuscrit de Don Auvry. Cette hagiographie voisine celle du bienheureux Geoffroy, deuxième abbé de Savigny, et des bienheureux Pierre d'Avranches et Hamon, tous religieux du même monastère. Hippolyte Sauvage, avocat et érudit, se chargera, quant à lui, de publier une traduction française de la vie de Saint Vital, un récit hagiographique qui en comporte toutes les caractéristiques. L'auteur du texte, Étienne de Fougères, aumônier d'Henri II, deviendra évêque de Rennes. On suppose qu'il s'est consacré à cette biographie de Vital sur le déclin de sa vie, à un moment où on lui reproche des écrits antérieurs consacrés à la poésie, excellent mais trop léger au dire de ses détracteurs. Son texte poétique et emphatique ne comporte aucune date, sauf une, celle de la mort de Vital. Si l'on admet une rédaction dans les années 1170, cela signifie que 50 ans se sont déjà écoulés entre la mort de Vital et cette rédaction. Molenbrock, dont nous reparlerons, remet en perspective ce texte, dont l'auteur lui-même précise qu'il ne s'agit pas d'un texte historique, mais hagiographique, donc édifiant, et il faut le prendre comme tel. En 1990, Jaap van Molenbrock fait traduire du néerlandais en français un ouvrage écrit à partir de ses travaux universitaires, une maîtrise d'histoire médiévale consacrée à Vital et une thèse de doctorat centrée sur les sources relatives à Vital et au début du monastère de Savigny. Preuve à l'appui, il montre l'évolution des dénominations associées à Vital, d'abord Vital l'ermite dans les documents les plus anciens, puis Vital de Mortain ou abbé de la Sainte Trinité, enfin Saint Vital, cette fois après sa mort. Pertinemment, il pointe du doigt l'absence de tout document permettant de mieux cerner le personnage. Il n'y a pas de sermon ou de traitant édifiant, pas de statut rédigé pour les religieuses et religieuses. Rien n'émane de lui, que ce soit une lettre ou même une simple signature. Tous les renseignements relatifs à Vital sont de seconde main, que ce soit à propos de ses motivations, de ses idéaux, de ses comportements. De surcroît, la plupart des textes visent des intentions cultuelle, non dissimulée. En son temps, Jacqueline Buot remarquait également l'ignorance des actes de Vital durant la période où il préside à la destinée de Savigny, soit de 1112 à 1122. Molenbrock souligne le peu d'intérêt de la prose du XIXe siècle relative à Vital pour mettre en avant un seul et unique ouvrage, celui écrit par l'historien de l'Église allemande, Johannes von Walter. Ce dernier isole le temps de Vital comme prédicateur itinérant pour ensuite le relier aux quelques grandes figures de son temps, celles avec lesquelles il a entretenu des relations comme Robert d'Arbrissel ou Bernard de Tiron. Cet exercice met en lumière la signification historique revêtue par Vital, ne le cantonnant plus à un cadre régional ou monastique. Après lui, il affirme qu'aucune étude large et approfondie des sources ne sera entreprise. Même Jacqueline Buot a du mal à trouver grâce à ses yeux, mais il est vrai qu'elle apporte peu de nouveautés sur les débuts de l'histoire du monastère. Toutefois, comme Molenbrock, comme Walter, comme Buot, pose la question de ce vaste mouvement religieux des années 1100 et de ce qu'il entraîne. Parmi ces ermites, un groupe ne se satisfait pas de la réforme de la vie monacale, mais cherche à exercer une influence sur le peuple en faisant de l'agitation. Des hommes comme Arbrissel, Tiron ou Vital, aux capacités intellectuelles supérieures, ont d'autres ambitions. Il faut aussi se souvenir que des groupes d'hérétiques aux idées proches, pratique de la prédication itinérante, pauvreté chrétienne, prise en compte des femmes, seront condamnés par l'Église comme hérétiques. Molenbrock met aussi en relief le problème des saints de Savigny, qui ne seront jamais béatifiés par Rome, malgré quelques tentatives. Si avant 1234 les canonisations épiscopales sont tolérées, Après cette date, elles deviendront du droit exclusif des papes et la seconde translation des corps saints a lieu en 1242. Cette année-là, Étienne de Lexington, abbé de Savigny, obtient la permission de rapporter les corps saints de la chapelle Sainte-Catherine où ils avaient été déposés le temps de la construction de la seconde abbatiale et il les transfère donc dans l'abbatiale Notre-Dame, tout juste sortie de terre. Outre Vital et sa sœur Adeline, première abbesse donc de l'abbaye blanche du Neubourg, à Mortain, la liste des saints savigniens comporte Geoffroy, deuxième abbé de Savigny, Pierre d'Avranches, Amon de Landacop, tous deux moines, et enfin Niobé, novice. Étienne de Lexington dispose d'une vita pour quatre des six saints, mais pour trois d'entre elles, Geoffroy, Amon et Pierre d'Avranches, aucun miracle n'a été ajouté. Or, une béatification n'est possible qu'à condition que des miracles se soient produits. Les cinq saints sont transférés, à l'exception d'Adeline, sœur du Vital, demeurée dans la chapelle Sainte-Catherine, et les récits de miracles se produisent aussitôt. Notons également qu'Étienne reprend les formes classiques en usage depuis des siècles pour la vénération des saints. Inventio, Elevatio et Translatio. Mais, de façon inhabituelle, c'est lui-même qui procède à l'identification des reliques et à la reconnaissance de leur authenticité, un droit normalement réservé à l'évêque du diocèse. Étienne de Lexington n'a donc pas invité l'évêque d'Avranches, mais Geoffroy de Maillet, évêque de C, est grand ami de l'ordre cistercien. Les saints de Savigny demeurent donc des saints locaux, dont les reliques ont bénéficié de trois reconnaissances au XIXe siècle et au XXe siècle, en 1832, en 1872 et en 1960. Le livret regroupant les miracles, dénommé très simplement « Livre des miracles », sera consulté déjà par Claude Auvry. Bien que plusieurs pages soient manquantes, il comporte encore 78 pages. Sa rédaction serait l'œuvre d'un religieux de l'abbaye au moment de la seconde translation des saints de Savigny, un homme silencieux sur son identité, se présentant simplement comme un témoin oculaire. Il s'agit sûrement en tout cas d'une commande. Cet ouvrage est emporté par Don Louis Langlais, dernier scélérier de l'abbaye de Savigny, lors des troubles révolutionnaires. Après bien des vicissitudes, il se retrouvera entre les mains de Léopold de Lille, alors jeune élève de l'école des Chartes, qui en fait une copie intégrale. Nous sommes en 1846. 30 ans plus tard, des fragments paraîtront dans le tome 23 du recueil des historiens des Gaules et de la France. Fin 19e siècle, Hippolyte Sauvage le traduira également. Hippolyte Sauvage, comme le chanoine Pigeon, s'épancheront sur la vie des saints de Savigny dans une littérature où, il faut quand même le souligner, la foi prime souvent sur l'histoire. Un autre religieux, Raymond Hamelin, curé d'Argouges dans les années 1960, donc dans le Sud-Manche aussi, compile tout ce qui a trait à Savigny. Dans cet ensemble de notes manuscrites, que l'on peut toujours voir conservées aux archives diocésaines de Coutances, il évoque le chef de Saint-Vital et bien d'autres reliques autrefois contenues dans une châsse que l'on portait en procession le mardi de Pâques à deux croix élevées dans la forêt voisine sans donner de date précise. À propos de Vital, il ajoute que son culte fut complété d'une fête fixée au 16 septembre, établie par le chapitre général de Citeaux et célébrée de 1738 à la Révolution. En 1894, l'abbé Pierre Lemel, vicaire de Savigny-le-Vieux, retrouvera entre les pages d'un missel de l'ordre de Citeaux, conservé à la bibliothèque de la ville de Mortain, le texte d'un office particulier célébré ce jour-là en l'honneur de Vital. En ce qui concerne l'ordre, cette fois de Savigny, Jacqueline Rambaud-Buot, en 1948, consacre donc sa thèse de chartiste à l'abbaye de Savigny des origines à la fin du XIIe. Elle entame une autre approche, malgré tout, de l'histoire de Savigny, ne prenant pas les faits énoncés depuis déjà quelques décennies, sans véritable fondement, pour acquis. Elle retourne aux sources, les chartes, et ouvre le débat sur la question du type de règles adoptées à Savigny dès l'origine pour ensuite s'interroger sur le rapport des deux ordres, Savigny et Citeaux. De l'artisan de cette union, Cerlon, l'auteur souligne que nous ne savons pas grand-chose là encore. Ses œuvres, qui restent, pastichent les plus beaux morceaux de Saint-Bernard, dont il est un grand admirateur, raison pour laquelle d'ailleurs en 1152, il demandera à être relevé de ses fonctions abbatiales pour résider à Clairvaux. Elle développe l'idéal commun aux deux ordres, en réaction aux coutumes clunisiennes, un retour à la règle de Saint-Benoît au sens strict, une même approche dans l'exploitation du temporel, la tenue d'un chapitre général annuel, l'abbé père censé visiter ses filles chaque année, la pratique de l'essaimage au-delà de 60 moines. Mais elle se demande aussi si Savigny n'a pas hésité quelque temps sur la voie à suivre. Par exemple, les Clunisiens essaiment en constituant des prieurés, les Cisterciens en fondant des abbayes qui, à leur tour, pourront se démultiplier. Or, Vital crée un prieuré à Dompierre, Geoffroy un prieuré à Viray. Elle soutient également que Savigny aura une influence déterminante sur l'ensemble de l'ordre de Citeaux, car les méthodes employées par Savigny étaient le résultat de tâtonnements, le produit de l'expérience, alors que celles employées par Citeaux relevaient d'un essai logique de mise en pratique d'un idéal. Autrement dit, l'esprit de la règle aurait bientôt primé sur la règle elle-même. Il est vrai que l'intégration de Savigny à Citeaux lui vaut de garder bon nombre de ses spécificités et de ses privilèges, conditions de son rattachement, ce dont cette dernière finira par profiter. Par exemple, le pape Pascal II, dès 1112-1116, confirme la fondation de Savigny en y ajoutant le droit de célébrer la messe, même si le diocèse est en interdit. Citeaux n'en bénéficiera qu'après 1152. Savigny garde les patronages d'église, avec la perception des revenus y afférents, ce que s'interdit Citeaux dès l'origine. Elle reste également propriétaire de moulins, de pressoirs, de vignes. Enfin, bien sûr, Savigny conserve autorité et juridiction ordinaire sur tous les monastères de sa dépendance, comme du temps de son autonomie. Jacqueline Buot étend son étude aux filles anglaises. Outre les premières fondations suscitées par Geoffroy, qui en 1124 dépêche une colonie de moines vers l'Angleterre sous la conduite d'Éwan d'Avranches, elle soutient que la filiation même de ces abbayes n'est pas toujours sûre, d'où les premiers litiges avec Furness. L'un des premiers à s'intéresser aux liens entre Savigny et les donateurs se nomme Hippolyte Sauvage, avocat et membre de sociétés d'archéologie. De son point de vue, les ducs de Bretagne et leurs barons, ceux de Vitré, de Château-Giron, de La Guerche, pour ne citer que ceux-là, semblent regarder les religieux de Savigny comme leurs hommes et considérer cette abbaye comme terre bretonne, raison de leurs dons généreux. Toutefois, ils s'étonnent que l'abbaye se retrouve entre les mains des comtes de Mortain sans trouver de solution à cette question, arguant du fait que Robert de Mortain, après avoir combattu André de Vitré, finit par épouser la fille de ce dernier. Là serait la clé à ses yeux des riches donations vis-à-vis de Savigny et du Mont-Saint-Michel, motivés par l'envie de reconquérir ses places sans créer de conflit avec les voisins. Une vision pour le moins simpliste et dénuée de fondement. Ce qui semble plus vraisemblable, c'est une volonté religieuse et politique d'installer Savigny en ce lieu précis de conjonction régionale, là où l'abbaye peut pleinement profiter de cette implantation. Dans le bocage normand, l'abbaye de Savigny acquiert d'ailleurs une telle réputation d'opulence qu'elle donne lieu à un dicton « De tous les côtés que le vent vante, l'abbaye de Savigny a des rentes ». Deux études apportent un éclairage intéressant sur l'emprise de Savigny, cette fois vue du côté du Maine. Celle de Marguerite Paul Guilbeault porte sur la transcription des chartes mensuelles et, bien sûr, celle de Daniel Pichot, ultérieure et fruit d'un mémoire de maîtrise, en extrait, lui, une analyse socio-économique. Marguerite Paul Guilbeault dégage les grandes caractéristiques des chartes retranscrites. Bon nombre sont des originaux d'actes transcrits dans les cartulaires de Savigny entre 1117, pour le plus ancien, 1491, pour le plus récent. Gilles va être content, c'est un peu plus tardif. Elle n'en réalise d'ailleurs qu'une publication partielle. Pour la période allant de 1202 à 1243, le cartulaire de Savigny pour le Maine comprend 33 chartes, toutes recensées dans la thèse de Jaap van Molenbrock. Daniel Pichot va au-delà de cette fourchette chronologique en s'arrêtant au seuil du XIVe siècle, avant les grandes crises de la fin du Moyen-Âge. Le point de vue sur la formation du temporel, sur le rôle éminent joué par la chevalerie, sur l'exploitation agricole et donc les granges, sur le renforcement de la seigneurie ecclésiastique, sur la dépendance de ceux qui travaillent pour la congrégation de Savigny, est tout à fait novateur au regard de ce qui, jusqu'alors, a été pris en compte. Après avoir évoqué les sources archivistiques, après avoir balayé rapidement, je vous l'accorde, les principales analyses parues sur l'histoire de Savigny, que savons-nous à présent de l'architecture et du décor de l'abbaye? Il faut encore une fois se reporter à l'ouvrage de Don Auvry pour avoir la description la plus ancienne des bâtiments monastiques encore ne concerne-t-elle que l'abbatiale. En 1899, donc postérieurement à la publication de l'histoire de la congrégation de Savigny, Auguste Laveille, encore lui, publie deux articles, ayant pour thème les derniers jours des deux abbayes normandes, Savigny et le Mont-Saint-Michel. Pour ce qui relève du temporel de Savigny, il cite intégralement le procès-verbal dressé par les officiers municipaux le 20 mai 1790, en vertu du décret du 26 mars de la même année, ce décret ayant pour but de faire connaître à l'Assemblée nationale l'état des biens des abbayes et les dispositions de leurs habitants au sujet des nouvelles lois. En dehors des dettes contractées, le texte livre une description, certes sommaire, mais intéressante, des bâtiments, de leur usage et de leurs dispositions. Au sud de l'église, on parle des cloîtres carrés, du dortoir de plus de 300 pieds de longueur, occupé par 11 appartements pour 11 religieux, et d'une bibliothèque de 3400 ouvrages installée dans une des chambres. Il évoque également la position de la boulangerie avec une pièce au-dessus où l'on resserre les titres et archives, la cuisine, l'office, le quartier des hôtes, l'appartement du prieur, une chambre de maître, l'appartement du procureur, le quartier des domestiques. Bien des informations dont Auguste Laveille ne déduit pas grand-chose, se contentant de transmettre l'information. Victor Gadebois, ancien principal du collège de Mortain, fournit des informations un peu plus complètes à ce sujet. La retranscription intégrale qu'il donne du procès-verbal dressé par deux experts en 1751, François Dior et Julien Gauvary, dans un article paru en 1934, est particulièrement précieuse. Le document original, détruit en 1944, rend compte d'une visite de l'abbaye avec estimation des réparations à y faire. On y découvre en totalité le détail des bâtiments, y compris les annexes, buanderies, basse-cour, les jardins, le grand canal, à l'exception du vieux logis abbatial et de l'ancien colombier, peut-être abattu en 1751, de l'ancienne léproserie du désert, de la chapelle Sainte-Catherine, et enfin du nouveau logis abbatial, construit en 1745 à Beaufour. La description ne répond pas à toutes les questions, bien que Victor Gadebois ait complété son propos par d'autres documents, eux aussi autrefois aux archives départementales. Un autre article de sa main, cette fois de 1937, donne l'état des lieux du 12 Thermidor en 3, donc du 30 juillet 1795, établi pour les acquéreurs de l'abbaye, cette fois, Porphyre Jacquemont et Jean-Charles Ruault, par Henri-Jacques Léger, ingénieur géographe du département de l'Orne, et Nicolas Lecoy, arpenteur géomètre à Mortain. Dans ce constat, dont l'original n'est plus, on y découvre une abbaye ouverte à tous les vents, puisque vidée de ses portes, fenêtres et vitraux. Des extraits de cet état des lieux avaient déjà été donnés par Hippolyte Sauvage dans ses recherches historiques sur l'arrondissement de Mortain à la fin du XIXe siècle. Il y évoquait un autre procès-verbal, celui de 1791, rédigé par Le Coy de la Marche, dont on a parlé, et Le Jet, architecte à Mortain, à l'occasion cette fois de la mise en vente de l'abbaye en 3 lots. Parmi les dernières publications relatives à Savigny et à destination du grand public, figure le numéro 109 de la revue Art de Basse-Normandie, dans lequel Béatrice Poule rappelle et synthétise ce que nous savons de l'architecture de Savigny. Elle rappelle combien la construction des 2 églises abbatiales successives est bien documentée. Pour la première, de bois, le complément à la chronique de Robert de Torigny, ancien abbé du Mont-Saint-Michel au XIIe siècle, l'Octarium Savigniense, fournit des informations complémentaires. Au jour de la dédicace, le 1er juin 124, sous le patronage de la Sainte Trinité, l'édifice, alors seulement pourvu du chœur, sera achevé sous l'abbatiat du successeur de Vital, Geoffroy. Les évêques d'Avranches, de Coutances, de Bayeux, de Cé et du Mans assistent à l'événement. La seconde abbatiale, plus grande, et de pierre, démarre en 1173 sous l'impulsion de l'abbé Josselin, en raison, nous dit-on, de la petitesse et de la vétusté de la première église. 4 ans plus tard a lieu la dédicace de la chapelle Sainte-Catherine, située au sud des dortoirs, oratoire provisoire et lieu de transfert des corps saints de Savigny lors de la cérémonie de translation de 1181, selon Don Auvry. Cette chapelle, d'ailleurs, disparaît en 1705 suite à un incendie. L'abbatiale de pierre grève lourdement les finances du monastère. Malgré des donations, Béatrice Poule cite celle d'André de Vitré et de Gilles de Goron, le pape Lucius III, dans une bulle du 17 août 1184, encourage les fidèles de l'archevêché de Tours à faire preuve de générosité. Les moines rentrent dans leur nouvelle abbatiale le 15 août 1200. Elle sera consacrée 20 ans plus tard. Ces étapes, bien identifiées pour l'abbatiale, se font beaucoup plus floues, voire inexistantes, pour les bâtiments conventuels. La référence principale reste Don Auvry et sa description des saccages perpétrés par les protestants en 1562, donc pendant les guerres de religion. Outre l'assassinat de l'abbé, il y aura la déclaration de 2 incendies qui, nous dit-il, touchent le chœur, le clocher, puis la charpente et la couverture. Les dégâts sont réparés, mais la voûte de la nef, initialement de pierre, est reconstruite en bois. Auguste Laveille attribue cette reconstruction à l'abbé Claude Dubellay. Un autre incendie, en 1705, atteint la chapelle Sainte-Catherine, le réfectoire et le bâtiment des hôtes, détruit presque entièrement. Une vente de forêt, autorisée par le Conseil d'État en 1706, autorise la reconstruction de ce qui a été détruit, à l'exception de la chapelle, dont ce qui reste sera sans doute réemployé dans les nouveaux bâtiments. Lorsque la Révolution éclate, les bâtiments sont en excellent état. Béatrice Poule reprend ensuite les informations données par les articles de Victor Gadebois, le procès-verbal de 1751, et un document conservé en original aux Archives nationales, la déclaration des biens, revenus et mobiliers de l'abbaye de Savigny. Quant au recensement des éléments lapidaires et architecturaux dispersés entre Maine et Normandie, ceux identifiés en tout cas, ce sera sous la plume de Victor Gadebois, de Jean Durand de Saint-Front et plus récemment de Jean-Luc Dufresne qu'on le trouvera. Alors évidemment, je ne pouvais passer sous silence le mobilier de Savigny. Le texte d'Auguste Laveille, déjà cité, où il retranscrit le procès-verbal de 1790, donne une liste fort intéressante des œuvres encore visibles à ce moment-là. L'église abbatiale comporte un sanctuaire protégé par des grilles dorées, enrichies de 14 autels, de tableaux, d'une gloire, d'une garniture d'autels en cuivre, d'une lampe, d'un orgue renommé, est-il ajouté, de vases sacrés et d'ornements. Il est seulement regrettable que la description n'en soit pas plus précise. Les adjectifs « beau », « riche », « superbe » témoignent du luxe dégagé par le décor, mais s'avèrent pauvres si l'on essaie d'en apprécier les qualités esthétiques, la provenance ou d'en retrouver trace par-delà le temps. Dans une autre source, cette fois Don Auvry, nous apprenons que les protestants, en 1562, emportèrent la crosse, la mitre, des pierreries et 14 calices, dont 4 étaient d'or massif. Jean Durand de Saint-Front, dans l'opuscule intitulé « L'abbaye de Savigny, ce qu'elle fut, ce qu'elle devint », publié en 1959, s'attache à la description des biens mobiliers et immobiliers, mais ne fait que reprendre les dires de ses prédécesseurs. Hippolyte Sauvage, l'abbé Lemel, Baluse, en réitérant parfois les mêmes erreurs. Il en ajoute lui-même, lorsque par exemple il mentionne la chapelle Sainte-Catherine comme bien visible en 1751, alors que l'on sait qu'elle a été brûlée avant 1710. Aux inventaires de 1751 et de 1790, il ajoute celui dressé en 1743, qu'il qualifie de très précieux par ses détails, et cité par l'abbé François Lemel, curé de Savigny. Parmi les objets décrits, Durand de Saint-Front rapporte d'ailleurs un fait en contradiction avec la personnalité de l'abbé Lemel, soucieux de préserver au maximum les témoignages de l'ancienne abbaye. Au cours d'une kermesse, il aurait vendu un reliquaire rescapé des destructions et vols antérieurs, sans doute une chasse limousine à la famille Rothschild, dont il serait venu compléter les collections. J'avais écrit au Rothschild qui m'avait dit lequel, apparemment, ils en avaient une belle collection. L'explication se trouve peut-être aussi dans le lien entretenu par la famille Rothschild avec Savigny en tant que propriétaire d'une de ses filles, Lévaux de Cernay, puisque entre 1873 et 1945, cette famille fera beaucoup pour relever le site de ses ruines. Hippolyte Sauvage, dans la traduction du livre des miracles des saints de Savigny, livre quant à lui une description précise des reliquaires autrefois exposés sur le grand autel de l'église abbatiale. Commandé par Étienne de Lexington, leur apparence laisse à penser qu'il s'agissait de chasses limousines en émail champ levé. Du côté de la Bretagne, une fois n'est pas coutume, l'abbé Raison se prend de passion pour la vie du bienheureux Hamon. Dans ce texte, somme toute peu original, l'abbé reprend le passage de Don Auvry où il précise que les corps des saints sont déposés dans des caisses en chêne comportant des lames de plomb avec indication du nom de chaque saint. À ce sujet, il ajoute que l'information est absolument exacte et que la plaque de plomb de Saint Geoffroy est encore conservée avec les reliques de cet abbé sous le maître-autel de l'église paroissiale de Savigny-le-Vieux. Il faudra qu'on demande à la mairie de démonter le maître-autel. Plus récemment, dans le numéro de la revue Art de Basse-Normandie, consacré à la région de Saint-Hilaire-du-Harcouët, Josiane Pagnon, alors conservatrice des antiquités objets d'art du département de la Manche, dresse un bilan de ce qu'elle sait du mobilier dispersé de l'abbaye de Savigny. Outre les éléments du XVIIIe siècle bien connus, comme les orgues, aujourd'hui à la cathédrale de Coutances, le maître-autel et la lampe de sanctuaire, tous deux à la collégiale Saint-Évroult de Mortain. Voilà la lampe sur laquelle on a les armoiries de l'abbaye. Elle évoque également le gisant de Jean le Verrier de 1409, malheureusement, il manque la partie basse hein, qui a été entièrement reconstituée, et le cénotaphe de Vital, toujours visible à l'église paroissiale de Savigny-le-Vieux. Il lui appartient d'ailleurs d'avoir fait protéger au titre des monuments historiques la lampe de sanctuaire, timbrée des armes de l'abbaye. Son exposé s'étend tout naturellement aux objets en dépôt, à la conservation des antiquités et objets d'art, un fragment de retable du XVe siècle, un Christ en ivoire du XVIIIe siècle, une écuelle, alors ça c'est toujours extraordinaire, une écuelle ayant servi à Vital, plus vraisemblablement du XIXe, un plateau à quête pour les messes mortuaires du XVe siècle, quelques tomettes égarées et également, très intéressant, mais Véronique et Gazot et Cécile Niel en reparleront, une série de reliques, c'est au sein de celle-ci que Sophie Desrosiers, chercheur au CNRS, mettra en évidence la présence de tissus de soie, dont le fameux drap d'arête, ce tissu fabriqué en Espagne entre la fin du XIIe siècle et le XIIIe siècle. Il n'y a plus qu'une petite centaine d'échantillons de drap d'arête dans le monde, et on n'était pas peu fiers puisqu'on en a trois en provenance de Savigny. Voilà une macro-photographie d'un des tissus. Avouez que c'est absolument charmant. En matière d'objets disparus, Josiane Pagnon cite également l'article du chanoine Pigeon relatif à la commande de tableaux passés au XVIIIe siècle, un contrat passé entre le prieur de l'abbaye et François II de la Vente, fameuse dynastie de peintres de Vire. L'exemplaire original, mais vous voyez, cette communication a permis de trouver de nouveaux éléments. L'exemplaire original, grâce aussi à un collègue des archives, a pu être retrouvé dans le fond du chanoine Pigeon. Et en réalité, il n'est pas question d'une commande de 7 tableaux seulement, mais bien de 10 tableaux. Dans le premier contrat, en date du 1er juillet 1759, le prieur Don Liégeard passe commande de 3 tableaux. Jésus-Christ guérit dans la piscine un homme paralytique, d'après une estampe de Tardieu, Saint Vital, Saint Amon. 2 ans plus tard, le 6 janvier 1761, nouvelle commande, cette fois de 7 tableaux. La scène, la résurrection de Lazare, l'Annonciation, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, donc la Pentecôte, la Nativité, la Résurrection et enfin la Crucifixion. Le Tardieu dont il est ici question, car c'est une véritable dynastie là aussi, est sans doute Jacques-Nicolas Tardieu, 1716-1791, graveur du roi, académicien en 1749, qu'il bénéficiait d'une belle notoriété, et qui fit une gravure sur le thème de la guérison du paralytique à partir d'un tableau. Alors, j'ai pas retrouvé encore la gravure, mais en tout cas, voici le tableau à partir duquel Tardieu a fait une gravure, gravure elle-même qui sera copiée donc par François II de la Vente. La semaine dernière, nous avions notre colloque des conservateurs des antiquités objets d'art sur cette peinture de chevalet religieuse du XVIIe au XIXe. Et on a vu que c'était vraiment une enquête policière à chaque fois pour trouver l'œuvre originale, la gravure, puis l'œuvre que l'on peut trouver in situ, avec à chaque fois des transformations. Donc voilà au départ l'œuvre originale, qui est un très beau tableau de Jean Restoux, qu'on peut donc voir au musée des Beaux-Arts à Arras. Dans le contrat liant le prieur et le peintre, on lit avec intérêt en tout cas ce qui est à la charge de chacun et combien le programme iconographique édicté par le religieux est précis et contraignant, ravalant l'artiste au rang de copie d'estampe. Non seulement il impose à l'artiste une copie d'une gravure de Tardieu, mais il lui demande pour le reste d'aller lui-même acheter des gravures de qualité sur Paris. Donc sous-entendu qu'il n'était pas capable lui-même de faire une œuvre capable de satisfaire la commande. Ces toiles seraient parties pour le grand séminaire, si ce n'est que l'abbé Hamelin, dans des notes manuscrites de 1962, indique déjà que les tableaux de la Vente ne sont plus là. Seule une huile sur toile a été clairement identifiée, la scène, aujourd'hui accrochée dans une chapelle latérale, la chapelle Saint-Nicolas de la cathédrale de Coutances. Mais sachant que les tableaux sont plus nombreux qu'indiqués, la tentation est grande de partir une fois encore en quête, d'aller plus loin pour, le rêve est permis, en retrouver d'autres. Une autre bonne nouvelle, cette fois, concerne un Christ déposé au musée de Vire. Josiane Pagnon cite le catalogue des œuvres exposées au musée de Vire où Pierre Butet-Hamel indiquait de la main de François Girardon un Christ en croix en provenance de Savigny, sauvé de la fonte par Vimon de Villedieu en 1793. Ce dernier, devant la beauté de l'œuvre, aurait donné son poids de métal en contrepartie afin de lui éviter la destruction. Le Christ est alors signalé comme disparu dans les bombardements de Vire. Eh bien, il n'en est rien. En bronze et mutilé de la main gauche, le voici. Cette œuvre existe toujours. Alors on peut dire que lui, c'est vraiment un rescapé. Hein. Il a échappé à la Révolution, il a échappé au bombardement, il a perdu une main quand même dans la bataille, mais c'est un très beau Christ en bronze, toujours attribué à Girardon. Donc, le temps des archéologues, Charles Duhérissier de Gerville constate l'état pitoyable de l'église abbatiale en 1819 avec une économie de détails frustrante. En revanche, le récit de voyage effectué au mois de mai 1831 par Henry Gallinight, citoyen anglais et membre du Parlement, laisse au lecteur quelques idées plus précises. Ce voyage archéologique en Normandie paraîtra à Londres en 1836. Arcis de Caumont, aidé d'Alfred Campion pour la traduction, livrera la version française en 1838. Comme le souligne Béatrice Poul, Gallinight est le premier visiteur à envisager le bâtiment sous l'aspect de son architecture et non plus seulement sous celui de son usage ou de son état. Au cours de ce périple, Gallinight, ne pouvant se rendre lui-même sur le site de Savigny en raison d'un empêchement de dernière minute, se fie au récit de son compagnon de voyage, Richard Husset, architecte. Les propos rapportés confortent l'opinion selon laquelle la destruction pierre à pierre de l'ensemble monastique a été rapide, avec à cette époque une église abbatiale dont les éléments encore debout ne sont que plébéantes. Gallinight rapporte que de l'église il subsiste en bon état la façade ouest, dans un état de dégradation générale la grande partie du mur de l'aile sud de la nef, une portion de celle du nord, la moitié du transept nord, le transept sud et quelques portions de maçonnerie à l'est. Richard Husset est sensible au rythme architectural du bâtiment scandé par les ouvertures subsistantes, la porte du mur occidental terminée en trèfle et surmontée d'une verrière à trois lancettes, elle-même sommée d'un trilobe, la grande fenêtre circulaire ouverte dans chaque bras du transept, la porte occidentale menant au réfectoire avec son décor de bâtons brisés, celle achetée par Arcis de Caumont. Attenant à l'église, il visite ce qui reste du réfectoire qu'il décrit en termes flatteurs. Une voûte d'une étendue considérable qui a servi à soutenir des constructions supérieures est attenante à l'église. Il est dommage que cette description n'ait pas été retouchée ou complétée par Arcis de Caumont lui-même lors de son voyage en 1845. Il fera alors transporter les deux chapiteaux dans le jardin de l'hôtel de ville de Mortain où ils sont toujours. Au XIXe siècle, un autre homme retient notre attention. Dans son obstination à collecter tout ce qui peut être en lien avec l'ancienne abbaye de Savigny, on en a déjà parlé, François Lemel. D'abord vicaire de Savigny en 1850, il effectue un bref passage à Saint-Georges-de-Livoix avant de revenir à Savigny, cette fois comme curé, de 1861 à 1900. Son neveu lui succède à la cure jusqu'en 1911. À partir de 1854, il rédige un volume de notes historiques, aujourd'hui aux archives diocésaines, à partir de la consultation des registres paroissiaux et archives communales, sans oublier les témoignages des personnes âgées ayant eu contact avec les derniers moines. Tout ceci est complété par un rapport détaillé des travaux de réfection, d'agrandissement et d'aménagement faits au presbytère et à l'église paroissiale de Savigny-le-Vieux. Au sein de ceci, on relève les éléments réutilisés en provenance de l'abbaye et le soin qu'il apporte à la relance du culte des saints de Savigny. Par exemple, c'est lui qui procède à la restauration du gisant de Jean V le Verrier. Au passage, il transmet une tradition orale selon laquelle la moitié inférieure du gisant, aujourd'hui reconstitué, se trouverait enterrée dans le bas de l'église sous le banc devant le confessionnel. On va transformer l'église en chantier si ça continue. À son crédit, il convient aussi d'ajouter un certain nombre de plans et essais de reconstitution de l'élévation des bâtiments. Certains de ces essais sont en dépôt à la conservation des antiquités objets d'art. En septembre 1935, des sondages archéologiques ont été effectués par Jacqueline Buot, élève de l'école des Chartes, grâce à une subvention de la Société française des fouilles archéologiques. Un résumé a été publié en 1940-42 dans le bulletin de cette société. C'est de ce bulletin dont Béatrice Poul extrait les éléments les plus significatifs dans son article de 1997. Je n'irai pas plus loin dans l'étude des fouilles réalisées, laissant ce soin à François Fichet de Clairefontaine. Conclusion. Dans ce panorama, vu du côté français, et qui n'a d'autre ambition que de tisser la toile sur laquelle les uns et les autres viendront poser des touches de couleurs plus précises, l'on peut dégager plusieurs groupes et mettre en lumière bien des apports, mais aussi bien des lacunes. Du temps de la vie de l'abbaye, peu d'auteurs s'intéressent à l'abbaye du point de vue historique, on l'a vu. Ne parlons même pas d'un quelconque intérêt artistique, l'historien d'art reste sur sa faim. Au XIXe siècle, comme pour tant d'autres sujets, tout est à faire. Sur cette voie royale s'engouffrent les premiers historiens, les premiers archéologues, mais aussi, et nous en avons peu parlé, les vulgarisateurs de tout poil. L'ouvrage de l'abbé Lemasson est un modèle du genre avec un tissu d'ineptie sur la fondation de Savigny, placée en 1107, avec le nom de trois fondateurs fantaisistes, Touroule, de Josselin et Robert, dont on ne sait d'où il les a tirés. Avouons que certaines de ces lectures octroient des moments savoureux, l'un d'eux, on croirait qu'il y était, décrivant la hutte des ermites avec force détail, y compris le mobilier, en vous expliquant comment fabriquer un trépied avec des bouts de bois. Plus sérieusement, le XXe siècle verra paraître la somme des travaux universitaires et les ouvrages de spécialistes venant éclairer Savigny non plus d'un jour frontal mais transversal, dans le souci de mieux comprendre l'ordre et non plus seulement l'abbaye mère. Et pourtant, malgré la multiplicité de ces ouvrages, il faut bien constater des manques. Une vision de Savigny franco-française, de maigres données sur les fouilles archéologiques et plus que tout, un véritable trou noir en ce qui concerne l'époque moderne. Il est indéniable qu'au XIXe siècle et durant la première moitié du XXe siècle, tous les efforts portent sur l'époque médiévale. Et encore ne s'agit-il le plus souvent que des XIe et XIIe siècles. Auguste Laveille, dans son article sur les derniers jours de Savigny et du Mont-Saint-Michel, justifie son peu d'intérêt pour les temps modernes en invoquant des documents moins nombreux. Or, l'on sait que toutes les archives sont encore intactes. Pire, Jacqueline Rambaud-Buot, dans la conclusion de son ouvrage, l'abbaye de Savigny, chef d'ordre et fille de Cîteaux, dit ceci: « La période suivante, sous-entendue dès la fin du XIIe siècle, ne nous montrera plus qu'une lente adaptation aux nécessités de la vie et de l'époque. » Quelques auteurs, mais si peu, et de façon si lacunaire, tente une approche de l'histoire de Savigny entre ce fameux XIIe et 1795. Hippolyte Sauvage, en 1897, édite un opuscule sur Savigny et la Réforme, à propos de la visite de l'abbé général de l'ordre de Cîteaux, venu à Savigny pour y rétablir une plus grande conformité à la règle, un point de détail dans un océan encore à découvrir. Ne peut-on aussi reprocher aux auteurs un manque d'intérêt pour l'ordre savinien lui-même? L'absorption toute relative de 1147 ne justifie pas de passer à la trappe le devenir des abbayes-filles et de négliger les rapports entre elles et Savigny. Ce colloque qui nous réunit au moment du 900e anniversaire de Savigny n'abordera pas toutes les problématiques, bien évidemment, mais au moins a-t-il le mérite de rassembler chercheurs anglais et français pour une approche globale de l'ordre savinien. Il y a eu un avant et un après dont Claude Auvry, il y a eu un avant et un après Caumont, Delisle, Gerville, alors osons le dire, il y a eu, il y aura un avant et un après colloque sur Savigny. Merci.